Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi 7h. En marge du sommet Corée-Afrique qui débute ce mardi, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a eu un entretien hier lundi avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon qui a salué les progrès économiques remarquables et la promotion de la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire. Examen à grand tirage, un taux de réussite nationale de 83,46% a été enregistré à la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CPE contre 60,28% l'an dernier. L'annonce a été faite officiellement hier lundi par Mariam Nimagadoso, la directrice de la direction des examens et concours. Au cours d'un point presse et puis dans l'actualité internationale, le Nigeria tourne au ralenti en raison d'une grève générale pour une hausse du salaire minimum. Aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, Soro Adams, recevra professeur Kwadio Gessan, enseignant en histoire des relations internationales au Centre des échanges. L'impact de la reconnaissance internationale de l'État de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège sur l'évolution du statut international de cette enclave. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. En ouverture de ce mardi 7h, de sources officielles, le président ivoirien adressera un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le mardi 18 juin prochain à l'auditorium du Sofitel Ivoire d'Abidjan. Rappelons que le 19 avril 2022, Alassane Ouattara s'était adressé au Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où il avait délivré un message sur l'état de la nation. L'ex-secrétaire général des Nations Unies de 2006 à 2011, à 2016 précisément, Ban Ki-moon se félicite de la gouvernance d'Alassane Ouattara depuis qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Et bien pour sa part, le numéro un ivoirien a salué l'action de l'ONU en faveur de son pays dans cette période. C'était hier lundi à Séoul, capitale de la Corée du Sud, en marge du premier sommet Corée-Afrique du 4 au 5 juin, Francis Cassi.
Dans une rencontre ce lundi avec Ban Ki-moon, ex-secrétaire général des Nations Unies de 2006 à 2016, le président ivoirien s'est dit reconnaissant envers ce dernier pour ses actions dans ce laps de temps pour son pays, Alassane Ouattara.
Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien, donc c'est une opportunité pour moi de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens.
Pour sa part, l'ex-secrétaire général de l'ONU a salué le leadership de Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, Ban Ki-moon.
It's a great honor for me to meet President Ouattara.
Je suis très heureux de rencontrer le président Alassane Ouattara ici en Corée. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. Et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante.
Help the people of Côte d'Ivoire.
Dimanche, avant ce premier sommet Corée-Afrique s'ouvrant ce mardi, les gouvernements sud-coréens et ivoiriens ont signé deux nouveaux accords bilatéraux. Le premier autorise désormais les bénéficiaires des deux pays de passeports diplomatiques, de passeports officiels de service à voyager sans visa pour une durée de 90 jours. Et le second, un accord pour un prêt de 1 milliard de dollars pour le financement du programme national de développement ivoirien 2024-2028.
Signalons que ce sommet congrès co-présidé par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le président en exercice de l'Union africaine, le mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Alors, quelles sont les retombées possibles de ce sommet pour la Corée du Sud et les pays africains? Tout de suite, la réponse du docteur Jemek Khamo, chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES.
La Corée du Sud gagne beaucoup déjà. L'Afrique, c'est un massif potentiel. Et c'est un pays qui innove beaucoup. Donc, ce pays a besoin de marché. Et l'Afrique, de plus en plus, avec l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, il y a un pouvoir d'achat qu'il va falloir capter. L'Afrique est une source de matières premières. Donc, ce pays essaie de plus en plus d'avoir des relations privilégiées avec les pays africains.
Alors, que gagne l'Afrique à avoir un partenaire comme la Corée du Sud?
L'Afrique gagne beaucoup. Et je pense que pour les pays africains, ils doivent aller au-delà des gains économiques et surtout viser plutôt les gains au niveau culturel. Et la Corée du Sud est un pays qui a été colonisé, qui est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Nous étions au même niveau que ce pays dans les années 60. Et aujourd'hui, ces pays se retrouvent parmi les grands pays du monde. Et surtout, ces pays ont fait le pas grâce à un leadership transformationnel. Donc, les leaders ont tracé le chemin, ont posé, je peux dire, les jalons qui ont permis à ces pays de plus ou moins d'être des pays assez développés. Donc, nous avons beaucoup à apprendre au niveau du leadership, nous inspirer de comment ces pays sont arrivés à passer d'un pays en développement à un pays au stade de pays développé. Et aussi, nous inspirer beaucoup de leur culture. De plus en plus, dans l'élaboration de nos PNB, la Corée du Sud fait partie des pays comparateurs et vers lesquels nous voulons tendre selon les pays d'aspiration. Donc nous pensons que déjà, il y a l'initiative qui est prise, mais il va falloir l'accentuer afin que nous puissions réellement tirer profit de l'expérience de ces pays. Comme on le dit, on n'invente pas la roue.
Voilà, c'était Dr Germain Cramo, chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, a été joint par Jean-Claude Comé. Direction la commune de Boaké qui veut innover dans la mobilisation des ressources pour le financement de ses projets de développement. Le lancement officiel du processus de notation financière et de levée de fonds a eu lieu à cet effet hier lundi ici même à Abidjan. On en parle avec Junior Cardin.
C'est le maire de Boaké, Amadou Koné, qui va indiquer les motivations de cette option initiée par son équipe.
Nous avons entrepris des réflexions sur plusieurs axes, avec un volet dédié aux investissements productifs, mais également à l'élaboration d'un programme social. Donc nous avons exploré toutes les pistes de financement, ce qui nous a amené à aller vers une notation de la mairie, rassurer les investisseurs et pouvoir aller sur le marché pour lever des fonds sans engager l'État, ni en termes de garantie ni en termes de prêt.
Mais la notation de la mairie, en quoi consiste-t-elle? Zézé Stanislas, PDG de Bloomfield Investment Corporation, partenaire dans ce projet.
C'est une évaluation rigoureuse qui permet d'établir la qualité de crédit d'une entité notée, donc sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Et ça rassure les investisseurs dans ce sens où ça vient répondre à trois questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel on devrait s'attendre? Et quel est le risque qu'on prend de perdre son capital.
Pour le parrain de la cérémonie à Kawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, il s'agit d'une innovation dont les autres collectivités pourront s'inspirer.
Après l'étape du forum d'investissement, aujourd'hui est entamée une autre nouvelle étape dans le processus de développement de la commune de Boaké avec cette quête de transparence, de crédibilité et de croissance durable. Je ne peux qu'être admiratif devant la nouvelle et belle trajectoire donnée par M. le maire à la commune de Boaké.
Cette rencontre a été suivie d'une formation des conseillers municipaux et du personnel de la mairie de Boaké sur ce mécanisme d'élévation du niveau de la gouvernance.
Examen à grand tirage, les résultats du certificat d'études primaires élémentaires CPE et l'entrée en sixième sont disponibles depuis hier lundi pour la session 2024. 512 563 candidats sont admis sur 614 121 candidats, soit un taux national d'admission de 83,46% contre 71,28% en 2023. A annoncé la directrice des examens et concours, Mariam Nimagadosso, au cours d'un point presse, un extrait de son intervention.
Les statistiques issues des délibérations sont les suivantes. 614 121 candidats se sont effectivement présentés dans les 2709 centres de composition ouverts cette session. 512 563 Parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Cette année donc, ce taux est en hausse de 12,18. Ces résultats, analysés sous l'angle du genre, révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également, ce qui donne des pourcentages de 84,10% pour les filles contre 82,84% pour les garçons. Les filles connaissent ainsi un meilleur taux de réussite que les garçons. En effet, l'année scolaire 2023-2024 a été une année normale, sans perturbation, avec les cantons horaires bien exécutés.
Voilà, c'était Mariam Nimagadosso, directrice des examens et concours. En collaboration avec le National Democratic Institute, le ministère de l'Intérieur, les fondations Friedrich Ebert et Friedrich Naumann, le Conseil national des droits de l'homme a initié le week-end dernier à Boaké un atelier sur le thème « La responsabilité des jeunes dans les partis politiques, état des lieux, défis et perspectives » autour d'un panel, les participantes ont identifié les contraintes et dégagé les stratégies pour une responsabilisation plus accrue des jeunes dans les partis politiques. On en parle avec Joseph Assali, notre correspondant régional dans le Québec.
La présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, a justifié le choix de la ville de Boaké pour abriter cet atelier. Namizata Sangaré.
Boaké est un pôle de développement et une ville universitaire importante où se nouent des alliances et où ont lieu des batailles politiques qui renforcent notre processus démocratique. Les jeunes de cette cité qui regorgent d'énormes potentialités ne doivent pas rester en marge de ce processus dans lequel ils ont un rôle fondamental à jouer, notamment dans la mobilisation, l'animation des partis politiques, la prise de décision, les opérations de vote, la consolidation de la paix.
En vue d'une responsabilisation plus accrue des jeunes dans les partis politiques, un panel animé par des experts, Dr Arsène Enebi, enseignant-chercheur en droit public.
Il est vrai que la question financière est une réalité, mais elle ne doit pas être un handicap là, en mobilisant des financements à partir même des électeurs à partir de militants qui croient en la vision de celui qui est le leader. On a invité les jeunes à pouvoir travailler davantage, à se former et bien former. Les anciens seront obligés de coopérer avec eux pour apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'ils peuvent.
À l'instar de Kwadio Kwadio Raymond de la jeunesse du Front populaire ivoirien, les jeunes ambitionnent de travailler davantage afin de bénéficier de la confiance des vétérans dans leurs différentes chapelles politiques. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale au Nigeria, un bras de fer est engagé entre les syndicats et le gouvernement. En plus de la diminution des tarifs de l'électricité, les syndicats réclament un salaire minimum à 300 euros alors que les autorités fédérales proposent de le passer de 18,50 à 37 euros. La distribution d'électricité, les ports, les universités, les hôpitaux, le transport aérien local, les secteurs clés et indispensables du pays sont ralentis, voire complètement bloqués. La grève lancée hier lundi donne des sueurs froides au gouvernement fédéral, d'autant plus que le mouvement devrait toucher la majorité des aéroports internationaux du pays. Et bien, pour éviter ce scénario, ministères et parlementaires de la majorité supplient les principaux syndicats de revoir leurs doléances. Selon le gouvernement nigérian, le salaire minimum de 300 euros revendiqué est impossible à tenir. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour César, bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 4 juin 2024 s'ouvre à Séoul le premier sommet Corée du Sud-Afrique, un sommet auquel participe le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Et le quotidien Le Patriote de nous apprendre qu'en marge de ce premier sommet Corée du Sud-Afrique, le chef de l'État échange avec son homologue sud-coréen. Un sommet que le premier citoyen ivoirien va mettre à profit pour nouer des relations d'affaires au profit de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce que souligne le tabloïd de l'Avenir en nous apprenant que Ouattara noue d'importants partenariats en Corée du Sud. Dans la même veine, le Jour Plus met l'accent sur le volet coopération en titrant la Côte d'Ivoire et la Corée engagées à accroître leurs échanges commerciaux. Et si vous vous posez donc des questions sur les tenants et aboutissants de ce sommet, l'Inter propose, à travers une interview du vice-ministre des Affaires politiques de la Corée du Sud, des éléments de réponse. Du côté du quotidien gouvernemental, l'accent est mis avec à sa une double image bien colorée donc sur les rencontres du chef de l'État ivoirien avec son homologue sud-coréen, mais aussi avec l'ex-secrétaire général des Nations Unies, savoir Ban Ki-moon, avec le titre suivant « Paix, réconciliation, développement ». Ban Ki-moon salue le leadership du président Ouattara. Revenons à l'actualité, toujours de l'actualité bien sûr, ivoirienne bien sûr, mais plutôt le volet politique en nous intéressant à l'élection de 2025. Certains quotidiens s'y intéressent aujourd'hui. Ainsi, le Patriote de Titré, face à un RHDP structuré, organisé d'ancrage national, PDCI, PPACI, FPI trop faible. Et toujours parlant donc de cette élection de 2025, l'Inter titre candidat ou pas à la présidentielle 2025, Ouattara met fin au suspense le 18 juin. Et juste à côté, PPACI, un document stratégique remis à Gbagbo. Et terminons avec le temps donc qui déjà indique que pour la victoire de Gbagbo à la présidentielle, le PPACI lance l'opération CAP 2025.
Voilà, c'était la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Kaossi Poutin. À présent, l'invité de la rédaction sur Adamson reçoit aujourd'hui professeur Kwadio Guessin, enseignant en histoire des relations internationales au Centre des échanges, l'impact de la reconnaissance internationale de l'État de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège sur l'évolution du statut international de cette enclave. Entretien donc.
Bonjour, professeur Guessin Kwadio.
Bonjour, monsieur Soro Adams.
Palestine, quel est donc ce pays qui fait tant parler de lui?
C'est un territoire à l'est de la mer Rouge, coincé en réalité à l'intérieur du territoire juif d'Israël. Tout commence véritablement en 1947, lorsque, en raison des conflits entre les deux communautés, la communauté juive et la communauté arabe-palestinienne, les Nations Unies décident de diviser ce territoire-là entre les deux communautés. Malheureusement, et c'est la première source de la discorde que nous vivons en ce moment, c'est que le partage a été fait de manière désordonnée. Lorsque vous prenez la Palestine, au niveau du partage, vous remarquerez qu'il y a une partie, par exemple à gauche, qui a été attribuée aux Palestiniens, un autre morceau qui se trouve au nord-est attribué aux Palestiniens.
Mais qui a fait cette division?
Ce sont les Nations Unies. Parce que le colonisateur anglais, à un moment donné, a été incapable de concilier, n'est-ce pas, les intérêts des deux communautés, juives et palestiniennes. C'est en 1947 que les Nations Unies, face à cette situation, décident de diviser ce territoire-là entre les deux communautés qui sont en conflit en ce moment.
Donc, l'ONU décide de diviser le territoire entre les deux communautés, mais une division qui a été très mal faite.
Une division qui a été très mal faite, première source du conflit.
Deuxième source du conflit,
c'est que au moment du partage, en raison des différends qui existaient entre les deux communautés, les Palestiniens refusent la partie que leur a attribuée l'ONU, avec le soutien des autres pays arabes, ce qui sera à l'origine justement de la première guerre israélo-arabe en 1948.
Refus pourquoi?
Refus parce que les Arabes ont toujours estimé que ce territoire ne devait pas revenir aux Israéliens, aux Juifs, et que c'est leur territoire.
Autrement dit, Israël ne devrait pas se trouver là.
Israël ne devrait pas se trouver là. Et pourtant, lorsqu'on remonte, n'est-ce pas, dans l'Antiquité, il se trouve que les deux communautés ont existé là, de tout temps. aussi bien les Arabes, aussi bien les Juifs.
Donc une guerre.
Une guerre, première guerre israélo-arabe de 48 à 1949.
Et la suite ?
Et la suite, c'est qu'il y a eu près de 4 conflits armés entre les deux communautés.
Mais pourquoi la Palestine n'est toujours pas reconnue ?
La Palestine n'est pas toujours reconnue. Vous savez, il y a le droit international, mais il y a la politique, il y a les puissances internationales, etc. Imaginez-vous que pendant cette guerre, vous avez dû voir qu'il y avait une situation humanitaire qu'on devait absolument décrier. Et malgré cette situation difficile, il y a des superpuissances qui ne l'ont pas reconnue, qui, à la limite, continuaient d'appuyer Israël, de soutenir l'État hébreu en lui offrant des armes, des munitions, etc. Poussant l'État juif à toujours faire la différence.
Trois pays européens viennent de reconnaître l'État de la Palestine. Quelles conséquences pour la suite sur ce douloureux dossier entre Israël et la Palestine?
Disons que, à l'analyse des faits, la seule véritable solution qu'on peut trouver dans cette région du monde est, de la même manière que l'État juif a été proclamé en mai 1948, c'est de pouvoir aussi proclamer un État pour les Palestiniens, quitte aux deux communautés, aux deux États, de vivre côte à côte. Alors, les trois États européens qui l'ont fait, d'autres l'avaient fait déjà, je pense que d'autres suivront, mais tout ça est fait au regard du droit international et du droit humanitaire.
Mais l'État, oui. Expliquez simplement qu'est-ce que c'est et pourquoi la Palestine, pas un État.
La meilleure définition qu'on applique à un État, c'est celle qui nous vient des juristes. Un État, c'est-à-dire un territoire d'abord, avec des frontières naturelles ou artificielles, il doit être reconnu par les autres États. Deuxième élément, il doit exister une population sur ce territoire. Et le troisième critère important, selon les juristes, c'est qu'un État doit pouvoir disposer d'une loi fondamentale, d'une constitution, etc.
Et ce n'est pas le cas en ce moment pour la Palestine?
Ce n'est pas le cas pour l'instant pour la Palestine. Toutes les conditions de la création d'un État ne sont pas totalement, pour l'instant, réunies.
Et trois pays européens, donc, reconnaissent l'existence d'un, oui, État de Palestine. Quel impact possible sur la reconnaissance au plan international?
Je pense que ça va créer un effet de boomerang. Mais n'oubliez pas que les relations internationales sont régies par des règles, mais aussi sont régies par la volonté des grandes puissances. Et on verra bien.
Je vous remercie, professeur.
Je vous en prie.
Ce roi d'âme se recevait professeur Kwadio Guessa, enseignant en histoire des relations internationales dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. En marge du sommet Corée-Afrique qui débute aujourd'hui mardi, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a eu un entretien hier lundi avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a salué les progrès économiques remarquables et la promotion de la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire. Examen à grand tirage, un taux de réussite nationale de 83,46% a été enregistré à la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE contre 71,28% l'an dernier. Enfin, dans l'actualité internationale, le Nigeria tourne au ralenti en raison d'une grève générale pour une hausse du salaire minimum. Fin de ce mardi 7h, retour à l'actualité 8h.